à tous les auditeurs de Boîte à Livres. Boîte à Livres numéro 18, et pour cette émission, émission littéraire mensuelle, imaginée pour repérer, découvrir, vibrer et aller plus loin, nous avons le plaisir et la chance d'être accompagnés par Madame Emmanuelle Roux, qui est professeure de lettres au lycée Jean-Baptiste de la Salle à Rouen, et par quelques-uns de ses élèves de seconde. Alors je vois par exemple Lucas, je vois Céleste, Chérine, Marianne. Et pourquoi sont-ils là? C'est parce qu'ils ont participé au jury du prix Femina lycéen annuel qui s'est déroulé en 2019. Et c'est d'ailleurs le 4 décembre que nous les avons rencontrés pour la première fois, Cindy et moi, à l'Historial de Rouen, où s'est déroulée la dernière délibération. Alors le prix a été attribué finalement à La Chaleur de Victor Gestin. Mais ce qui est intéressant, c'est que le choix de la classe de Madame Roux, en fait, s'était porté sur un autre roman. Et lequel, Céleste ?
Le Bal des Folles.
Ça a été serré entre...
Oui, il n'y a eu qu'une voix de différence entre donc, La Chaleur et Le Bal des Folles.
Tu veux dire une voix de différence au jury final ou dans votre classe ?
Non, au jury final, oui, c'était très serré. Il y a beaucoup de personnes qui appréciaient beaucoup le roman Le Bal des Folles. Et notamment, quelque chose qui est rentré en jeu sur la délibération, c'est notamment le prix que Le Bal des Folles avait déjà reçu.
Ah, d'accord. Vous en avez tenu compte parce que vous êtes dit que c'était un roman très valable puisqu'il avait déjà été distingué.
Oui, c'était un des contre-arguments pour ceux qui étaient pour La Chaleur.
Ah, pour La Chaleur. Ils ont dit, bon, il a déjà eu... un prix, donc non, on va en distinguer un autre, on va être plus originaux, non ?
C'est ça,
j'ai
oui.
compris.
C'était le prix D'accord. Renaudot, je crois.
Oui,
parce qu'il y a un prix lycéen des Renaudot aussi,
hein,
et un prix Goncourt des lycéens. Donc vous avez participé au prix Femina des lycéens. Madame Roux, il existe depuis combien de temps ce prix ?
C'est un prix qui est relativement récent, hein, qui date de 2016. Et j'avais eu déjà l'occasion et la chance de participer à la première édition. Mais ici, ça a été tout à fait particulier avec cette classe de seconde.
Bon, ben on verra ça un petit peu plus en détail bientôt. Alors, vous savez, vous ne savez pas qu'au début de cette émission, on lit toujours quelques poèmes ou un grand poème qui a un rapport avec le thème. Et voilà une série de poèmes de Pierre-Emmanuel qui sont tirés d'un recueil de 1947, Chanson du dé à coudre, qui va nous introduire au thème de la raison, des raisons, folie, sagesse, hein, qu'on découvre à travers le roman Bal des Folles. Né d'animal raison, sauvé par des raisons divines, je vis de raison en raison, n'ayant vécu mort ni naissance, je vis comme un qui n'est point né, je vis comme qui ne mourra. Folie est le nom de ma vie. Que nomment sagesse les fous. Je suis né et ne suis pas né. De ma mort je n'ai point mémoire et vis en rêve, condamné à chercher le sens d'une histoire dont la trame est si fort usée qu'à peine tentais-je d'y croire. Elle craque en mille pensées et filochée dans la nuit noire. Si peu que rien, que sais-je? Une ombre chasse l'autre, un jour le jour d'avant, et seul je reste, devant mon miroir où n'est peint nul visage, ma nulle absence de savoir qui m'enseigne si peu que rien, le mouvement de lèvres mortes, toujours mobiles, toujours mortes, priant muette un dieu mort, le mien, le rien. Après les élancements de la montée, et sous les pieds vos silex, au rythme, après le vent qui suffoque le silence et mord la corde, la caresse, la reprend, plonge dans l'ombre et fond, se calme au long du songe, puis s'épuise à se poursuivre et casse enfin, archer qu'anime un ange fou de plainte. Quand les fibres de la hauteur brisées cesseront de cingler mon visage, quand aux apiques discords succédera l'andante et des grands monts allongés sous la lune, quand la neige de Dieu s'étendra devant moi, océan d'ailes, sans un souffle. Alors j'avancerai d'un pas, hors de moi-même. Ce sera le dernier. Donc après ces poèmes écrits donc publiés en 1947 par Pierre-Emmanuel dans Chanson du dé à coudre, nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui. Donc, sans Cindy, qui n'a pas pu être avec nous parce qu'elle travaille en ce moment, mais qui nous a transmis des questions aussi, et je vais être un peu son interprète. Alors, Madame Roux, c'est un projet de lecture impressionnant et difficile pour une classe de seconde, quand même, de se lancer dans le jury féminin des lycéens, parce qu'il n'y a pas que des élèves de seconde, ça va jusqu'au BTS, je crois, hein, le panel d'élèves lecteurs qui ont été sélectionnés là, dans ces 15 lycées. Comment vous êtes-vous organisé dans le cadre quand même d'un cours, je ne dis pas que ce soit rigide, d'un cours, mais enfin, il y a des obligations. Comment vous avez fait pour s'épanouir ce projet ?
Bien, en fait, une partie du programme de seconde porte sur la réception d'une œuvre. Et évidemment, le prix Fémina permettait justement de faire réfléchir les jeunes sur le regard que l'on peut porter sur une œuvre à un moment donné, l'évolution aussi de ce regard. Et puis, c'était aussi une manière de travailler l'argumentation. Et donc, au travers de séances qui étaient dédiées à la lecture et à l'échange sur leur lecture, il y a eu beaucoup d'échanges d'arguments à l'écrit, mais surtout à l'oral, au travers de petits échanges, notamment au CDI, hein, en table ronde. Et puis, les lectures tournaient beaucoup, donc ils ont pu échanger largement.
Donc, toute la classe a bien participé à jouer le jeu.
Quasiment tous les élèves ont lu plusieurs ouvrages. Alors certains ont plus de mal que d'autres. C'est une lecture aussi qui est nouvelle, parce que rares étaient ceux qui avaient l'habitude de lire de la littérature contemporaine. Donc c'était aussi une découverte.
Très bien. Et est-ce que vos élèves ont été accompagnés dans ce projet? Je veux dire accompagnés par le prix Fémina lui-même. Est-ce qu'on leur a proposé des rencontres ou des ateliers pour... soutenir leur réflexion?
Alors, ça a été un des grands moments, je dirais, du projet, que la rencontre avec un auteur, et notamment Victoria Mas. Ils ont pu poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. C'est une jeune femme qui a écrit ce premier livre, ce premier roman, et donc qui était très heureuse aussi de pouvoir partager son expérience avec des jeunes. Donc je pense que ça leur a beaucoup plu. Ce moment a été fondateur du projet.
Alors vous avez des souvenirs de cette rencontre, Lucas?
Bien sûr, ça a été intéressant de voir comment créer un roman et surtout un premier roman, comment se lancer, quelles inspirations. Donc on a pu lui poser toutes les questions qu'on voulait.
Par exemple, elle vous a dit comment elle avait choisi son sujet?
Elle, ce qui l'intéressait le plus, c'était de raconter une histoire. Donc, lorsqu'elle a appris la connaissance de cet ancien hôpital psychiatrique, la Salpêtrière, elle a commencé à faire des recherches plusieurs mois. Puis, elle s'est mise à écrire enfin dessus.
Voilà. Et c'était un travail solitaire ou elle a reçu des aides?
Elle a fait ses recherches elle-même, si je me rappelle bien de ce qu'elle nous avait dit. Et elle était très intéressée par son sujet et elle était contente d'écrire un livre par rapport à ça.
Mmh. Donc en fait, c'est un roman qui se déroule dans un lieu bien précis, la Salpêtrière. Alors Chérine, dans la Salpêtrière, quels sont les endroits plus particulièrement... romanesque qu'a trouvé Victoria Mas, digne donc d'être un support pour l'imaginaire du lecteur aussi. Difficile la question.
Oui.
Les autres, vous avez remarqué des endroits plus particuliers pour...
Je pense que c'est surtout le bal de l'ami Carême qu'elle a apprécié de parler du bal de l'ami Carême.
Oui.
Et du coup, comme c'est important parce qu'il y a tout Paris qui vient voir les folles danser, c'est intéressant.
Bon, ben on va revenir bientôt sur cette idée de bal des folles qui devient un objet de curiosité pour la bourgeoisie parisienne après une pause musicale que vous avez choisie vous-même, et vous nous direz après le morceau ce dont il s'agit. Alors, vous avez choisi
Bad Liar de Imagine Dragons.
Très bon choix. Alors, vous nous avez dit que ça se déroulait donc à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, un lieu qui existe toujours, hein, avec ses bâtiments historiques du XVIIe, hein, sa chapelle, ses parties plus anciennes et les plus récentes aussi. Et donc, ça se déroule à la Salpêtrière, mais quand ?
1830.
L'époque
Quelle
romantique
date, Céleste ?
Ah, c'est toujours dur, ça, les questions sur la chronologie.
1880,
non ? Ouais, au 19e oui. siècle, donc fin 1800.
Voilà, hein, la fin du 19e siècle. Vous connaissez des écrivains de cette époque-là qui ont décrit la société de Paris non, sous le Second Empire ? Il y a par exemple Zola, de cette époque-là. Bon, ça ne vous a pas évoqué spécialement cette littérature-là, et c'est normal, parce que c'est écrit avec l'esprit d'aujourd'hui.
C'est un style contemporain dans l'écriture, même si c'est un sujet
historique,
et du 19e siècle, mais c'est écrit très contemporainement.
Voilà, on le verra tout à l'heure, vous allez nous en lire un extrait. Alors, quels sont les personnages qui vous ont frappé dans cette histoire ?
Moi, je pense que c'est Eugénie, parce que c'est vraiment... déjà, c'est le personnage principal. Enfin, à peu près, elle et Geneviève, c'est un peu les personnages principaux de l'histoire. Et Eugénie, elle a une particularité, c'est qu'elle parle aux esprits, enfin, aux morts, et c'est intriguant.
Oui, c'est une adulte, c'est une jeune fille. Quel âge elle a, cette Eugénie ?
17 ans.
17 ans, oui. Alors, vous êtes peut-être identifié plus au personnage jeune dans cette histoire. Elle est la seule, elle est la plus jeune du service, ou il y en a d'autres aussi qui sont très jeunes aussi ?
En fait, les jeunes filles sont admises aussi très tôt à la Salpêtrière. Donc, en fait, le système de la Salpêtrière, c'est qu'on peut être admis en étant jeune fille, comme en étant une femme ou plus âgée. C'est que ce soit par notre père ou notre frère. Souvent des hommes qui admisent les femmes, mais ça peut également être par une voisine.
Mm-hmm. Et alors Eugénie, comment se fait-il qu'elle se trouve internée dans ce service ?
C'est justement par rapport à ce don d'entendre et de voir les esprits, qui est complètement surnaturel, donc qui ne va pas dans notre société, on veut le dire. Et surtout, ça dérange beaucoup dans cette société donc, du 19e siècle, qui, cette question dérange et invoque les récits, on va dire ça comme ça, quelque chose d'hérétique.
D'hérétique, ah d'accord, oui. Peut-être, oui. Alors c'est la police qui l'emmène, qui l'a fait interner, elle trouble l'ordre public ?
Non, c'est sa propre famille, donc son propre père et son propre frère. Et c'est ça qui est très marquant dans l'histoire aussi, qui peut choquer peut-être certaines personnes, et que tout du long du trajet, donc jusqu'à la salpêtrière, elle ne sait pas qu'Eva allait se faire interner. Elle ne sait pas, ne se doute absolument de rien, personne ne lui dit absolument rien. Et en fait, c'est suite à une confidence qu'elle a faite à sa grand-mère de son don qu'elle se verra amenée à la salpêtrière.
Oui, c'est tragique comme histoire, donc elle est vraiment aliénée mentalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Le point de vue de l'autrice, c'est que non, on part du principe qu'elle a vraiment ce don. Donc c'est écrit de manière qu'on n'en doute pas.
Oui, oui. Alors quel est le diagnostic qui est posé sur son cas quand elle entre à la salpêtrière ? Parce que l'autrice a un point de vue, mais peut-être que les médecins en ont un autre. D'abord, qui sont les médecins à l'époque ? Fin 19e dans un hôpital psychiatrique.
Le docteur Charcot, qui est très, très célèbre. Donc ça va être lui un peu le grand médecin respecté. Il est un peu au second plan, c'est pas un personnage qui va beaucoup interagir, mais c'est lui la figure qui a un peu le savoir sur ça.
Oui, à l'époque, oui. Mais... Vous avez fait des recherches, ça vous a amené à creuser un peu le sujet, là, d'avoir lu ce roman. Vous êtes renseigné sur Charcot ? Non, pas tellement.
On en a parlé en classe.
Voilà. Donc un personnage féminin, Eugénie, et il y a qui encore comme grand personnage dans
Geneviève.
Ce roman ?
Geneviève, et au tout début du roman, donc le roman commence avec donc le point de vue de Louise, qui est un internée très jeune, je ne me rappelle plus exactement de son âge, mais elle a été internée suite à un viol, je crois, de son oncle.
Oui, alors c'est assez tragique. Et alors ce viol l'a bouleversée, l'a rendue folle, entre guillemets, parce que c'est le terme qu'on emploie là dans le roman.
Oui, on peut même dire paranoïaque au début, parce qu'elle ne savait pas à quel moment elle pouvait rester tranquille, dormir et se reposer sur ses lauriers, comme on pourrait dire. Donc oui, c'est un événement assez traumatisant dans la vie de quelqu'un.
Oui, bien sûr. C'est ça qui est aussi peut-être dans l'air du temps, puisqu'on parle beaucoup de ces situations-là aujourd'hui. Hein, ça sort un peu au grand jour. Voilà. Oui, Lucas veut ajouter quelque chose.
Ensuite, autre personnage, c'est donc le personnage de Geneviève, qui était une des infirmières qui a un grand contact avec les folles, qui est selon moi le personnage le plus développé, puisqu'elle a un... Ce dilemme, c'est une personne qui fonctionne par la raison, mais lorsqu'elle va rencontrer Eugénie, ça va remettre un peu tout ce qu'elle pensait savoir en cause.
Voilà, c'est ça qui fait l'intérêt aussi du roman, ce renversement de point de vue, de mentalité, de certitude dans le personnage de Geneviève. Bon, je crois que vous nous avez bien intrigué avec ces personnages. Alors, à Boîte à Livres, on ne raconte pas l'histoire, hein, donc on ne dit pas comment ça va se terminer. Mais le titre, Le bal des folles, je crois qu'on va quand même le développer un petit peu plus. C'est quoi ce bal des folles ?
C'est un bal à la mi-carême où les folles se déguisent, elles portent des robes, elles dansent, elles font plein de choses.
La fête, quoi.
La fête, quoi, c'est ça. Et il y a tout Paris qui vient les regarder.
Sur invitation. C'est la curiosité. Comme on a montré des Indiens ou la Vénus hottentote, etc., dans des spectacles publics. Oui.
Donc en fait, pour l'époque, c'est un événement mondain. Donc c'est l'événement de l'année que tout le monde veut voir et qui est très prisé. Parce que les folles, à cette époque, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de voir. Donc c'est un objet qui attise la curiosité et que tout le monde veut pouvoir voir de près.
De près, et puis on espère voir une crise, quelque chose comme ça. Hein, c'est le grand mystère. La folie, hein, et la grande curiosité. Alors, on va en lire un passage, vous allez nous en lire un passage. C'est au chapitre 5, l'histoire est déjà un petit peu enclenchée, mais il est question de ce bal, hein, je crois.
Voilà, donc c'est le début du roman, et elle commence à se préparer pour le bal. Le 4 mars 1885. De l'autre côté des murs, un esprit de fête s'est emparé du dortoir. Les costumes sont arrivés. Entre les lits, un remue-ménage inhabituel prend forme. On s'agite, on s'exclame, on se précipite à l'entrée du dortoir, vers les cartons déjà éventrés. Les mains folles plongent dans les tissus, palpent les froufrous, caressent du bout des doigts les dentelles, Les visages s'émerveillent face aux couleurs des textiles. Les épaules se bousculent pour choisir l'appareil de leur choix. Les corps paradent avec les déguisements choisis. On glousse, on s'esclave. Et soudain, le lieu ne ressemble plus à un hôpital d'aliénés, mais à une chambre de femmes sélectionnant leurs toilettes pour le grand soir à venir. Chaque année, c'est la même effervescence. Le bal de la mi-carême, le bal des folles pour la bourgeoisie parisienne. Et l'événement du mois de mars. L'événement de l'année d'ailleurs. Durant les semaines qui précèdent, rien d'autre n'occupe les esprits. Les internés commencent à rêver de parures d'orchestre, de valses, de lumières, de regards croisés, de cœurs gonflés, d'applaudissements. Elles songent aux invités venus pour l'occasion, l'élite parisienne ravie de pouvoir côtoyer ces folles de près, et les folles ravies d'être vues, enfin, le temps de quelques heures. L'arrivée des costumes, deux ou trois semaines avant le bal, scelle l'enthousiasme ambiant. Loin d'exciter les nerfs fragiles et instables, l'humeur n'est jamais aussi apaisée qu'à cette période. Derrière ces murs d'ennui, il y a enfin de quoi distraire l'esprit. On coud, on retouche les plis, on essaye des souliers, on cherche sa pointure, on se prête main forte pour enfiler les robes, on improvise des défilés entre les rangées de lits, on admire sa coiffe dans le reflet des vitres, on échange des accessoires, et pendant qu'on s'attelle à tous ces préparatifs, on ignore les vieilles séniles accroupies dans un coin du dortoir, les dépressifs prostrés dans leur lit, les morts, les mornes qui ne partagent pas l'esprit de fête, les jalouses qui n'ont pas trouvé toilette à leur goût. Surtout, on oublie les troubles, les douleurs physiques, les membres paralysés, les souvenirs de ceux qui nous ont amenés ici, ses propres enfants dont on ne sait plus le visage. On oublie les pleurs des autres, l'odeur d'urine de celles qui s'oublient, les cris qui s'élèvent parfois, le carrelage froid et l'attente, interminable. La perspective de ce bal costumé tranquillise les corps et apaise les visages. Il y a enfin quelque chose à espérer. Au milieu de l'agitation du dortoir, les infirmières se distinguent par leur habit immaculé. Semblables aux pièces blanches d'un jeu d'échecs, elles se déplacent sur les dalles du carrelage de gauche à droite, en diagonale et à l'horizontale, s'assurant que l'emballement autour des costumes ne déborde pas. En retrait, droite comme la pièce maîtresse du jeu, Geneviève supervise elle aussi le bon déroulement de la distribution.
Madame Geneviève ?
L'intendante se retourne. Derrière elle, Camille. Encore, ses cheveux au burn mériteraient un coup de peigne. Elle devrait aussi se vêtir plus chaudement. Une simple chemise de nuit transparente lui sert de tenue. Geneviève lève le doigt en signe de refus.
Camille, c'est non. Un tout petit peu d'éther, Madame Geneviève. Ayez bon cœur.
Les mains de la femme tremblent. Depuis qu'on lui a traité une crise à l'éther, Camille n'a de cesse d'en réclamer. La crise était relativement violente et rien ne semblait pouvoir l'en faire sortir. Une interne lui avait administré de l'éther à une dose un peu plus élevée que la normale. Camille avait passé 5 jours à vomir et s'évanouir, jusqu'à s'en remettre, puis en redemander.
Louise y a eu droit la dernière fois. Pourquoi pas moi ?
Louise était en crise.
Moi aussi, j'ai refait des crises, et vous m'en avez pas donné.
Tu n'en as pas besoin cette fois. Tu en es sortie vite.
Un peu de chloroforme, alors, s'il vous plaît, Madame Geneviève.
Une interne arrive à pas presser du couloir.
Madame Geneviève, on vous demande à l'entrée, une nouvelle.
Je viens. Camille, va donc choisir un costume.
Aucun me plaît.
Tant pis pour toi, alors.
Bon, ben, Madame Roux, je pense que vous avez, avec cette classe quand même, un lot d'élèves exceptionnels. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte en développant ce projet.
Oui, c'est vrai que ce projet a permis à la classe de montrer à quel point elle pouvait être intéressée par la littérature, à mon grand plaisir. Et j'espère qu'ils ont découvert bien des choses au travers de ce projet.
Et qu'ils continueront à faire beaucoup de lectures et de découvertes. Merci. À bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Au revoir à tous les auditeurs.